Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
Réseau à la une.
Réseau à la une, le podcast. Analyse, décryptage et diagnostic des enseignes.
Bonjour à tous, bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du réseau à la une. Je suis Nicolas Monnier, journaliste pour l'officiel de la franchise et je suis épaulé par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management. Bonjour Sylvain, merci d'être parmi nous pour ce nouveau numéro.
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast.
Sylvain, avec votre cabinet Franchise Management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine, à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble de ses documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau, indice créé pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernant la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui avec vous. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Mermuse, directeur général de l'enseigne Cave à Vin. Bonjour Olivier, merci de nous avoir rejoints. Pour commencer Sylvain, pouvez-vous nous expliquer un peu quelle est la notation de l'enseigne Cave à Vin et quels sont les points forts qui ressortent des différents documents juridiques ?
Alors on a une évaluation moyenne qui est à 64% sur le DIP et le contrat, avec une très bonne conformité juridique, hein, il faut le dire, donc c'est le principal point fort sur le DIP, donc sur l'information précontractuelle. Et sur le contrat, si on regarde uniquement les aspects juridiques, on est quasiment complètement aligné, donc il n'y a pas de gros sujets. Il y a plus des sujets qu'on va pouvoir traiter ensemble d'adéquation entre la documentation et puis, on va dire, la marque aujourd'hui et sa stature sur le marché qu'il faudra travailler. Mais donc, s'il y a un point positif à prendre en considération, c'est qu'on a des documents qui sont conformes.
Dans votre analyse, Sylvain, et vous avez commencé à en parler, vous précisez que l'ensemble documentaire manque quand même un peu de précision. Je pense, c'est pas nouveau, mais sur l'état local du marché, sur les comptes sociaux 2021, etc. Vous me confirmez cela ?
Oui, tout à fait. En fait, quand je parlais de conformité juridique, c'est qu'en fait, toutes les briques sont présentes. Mais après, on sait très bien que les briques doivent évoluer et qu'elles peuvent avoir plus ou moins d'importance en fonction de périodes. Et actuellement, c'est vrai que l'état général du marché, on est très sensible, parce qu'on sait, j'apprends rien à personne en disant ça, que les marchés ont été très fortement impactés, positivement ou négativement, par la crise Covid notamment, et puis le contexte actuel qu'on vit, et que donc il faut être relativement précautionneux, et on va dire attentif à actualiser les états de marché et à mettre les précautions de rigueur. Donc c'est vrai que quand on regarde le DIP aujourd'hui, on se dit attention, il est important de mettre à jour l'état général de marché parce que si on a des données qui datent d'avant Covid, soit il faut prendre de la distance par rapport à ces données-là ou soit les actualiser pour permettre aux candidats à la franchise d'avoir vraiment les informations nécessaires et puis actualiser.
D'accord. Olivier, je vais vous demander de réagir un peu à cette analyse. Quel est votre sentiment, tout d'abord ?
Alors, l'état du marché, je rejoins évidemment ce que dit Sylvain, mais nous, il faut savoir qu'il est complété par une analyse avec beaucoup d'outils qui nous permettent vraiment de donner le potentiel emplacement par emplacement. C'est-à-dire que quand on va cibler une ville, on va vraiment choisir la rue qui convient par rapport à notre métier et à partir de là, on va refaire l'analyse du potentiel rue par rue. Il est assez courant d'avoir un franchisé potentiel qui veut qu'on lui compare trois rues dans la même ville. On va lui faire la comparaison des trois rues dans la même ville. On va aller sur place avec lui pour vraiment voir du point de vue commerce, du point de vue compatibilité avec les commerçants alentours, du point de vue parking, quel est le meilleur emplacement pour lui. Et en fonction du profil du franchisé par rapport à la clientèle, parce que ça, c'est important, hein. Les gens disent toujours c'est emplacement, emplacement, emplacement. Pour moi, c'est quand même évidemment l'emplacement, mais le meilleur profil par rapport à la clientèle de l'emplacement. Et on ne va pas mettre quelqu'un dans le 16e qu'on mettrait à Nanterre et vice-versa. Donc nous, en fait, on a des outils d'accompagnement pour qualifier le potentiel sur le marché local. Et on a des outils d'analyse de trafic également pour voir sur toute une année, 12 mois roulants, quels sont les moments de trafic. Donc là, après, On travaille les horaires d'ouverture, on travaille même, si on veut, les vacances du franchisé un an à l'avance. Mmh. Donc tout ça, on ne le met pas, et je suis d'accord avec Sylvain, on ne le met pas dans le DIP, et on ne le met pas ailleurs non plus dans le contrat. Mais par contre, on le qualifie projet par projet avec chaque prospect.
D'accord. J'ai l'impression, Sylvain, que c'est une tendance aujourd'hui. L'enseigne donne une partie visible et ensuite, quand l'évolution se fait avec le candidat, il y a d'autres documents qui entrent en ligne de compte. C'est votre sentiment aussi ?
Oui, oui, c'est le sentiment. Alors après, ce qui est toujours important, c'est de se dire, quand les choses sont bien structurées, bien organisées, c'est plus simple parce qu'on oublie moins de choses. Et il faut aussi se dire, c'est que la loi Dubin, c'est l'élément légal, alors perçu par certains réseaux comme une contrainte, mais de plus en plus perçu par les réseaux comme une opportunité, parce que ça permet la décision en connaissance de cause. Mais en tout cas, c'est notre terrain de jeu. Donc cette information précontractuelle, elle est caractérisée par le DIP, et elle peut être caractérisée par d'autres documents qui vont relever de l'information précontractuelle. Idéalement, c'est qu'il y ait un corps de lecture commun, avec, on va dire, une colonne vertébrale qui est le DIP et parfois quelques documents, mais dont on fait référence à l'intérieur du DIP, qui vont être remis a posteriori. D'accord. Typiquement, quand on se dit on a un état général de marché, un état local de marché, mais aussi une démarche ou une méthodologie qui va permettre d'apprécier le potentiel marché, bah, y faire référence dans le DIP en disant on vous transmet l'état général, on vous transmet l'état local de marché et aussi on vous met à disposition nos solutions spécifiques pour... Eh ben, c'est intéressant parce qu'on a notre colonne vertébrale et on n'oublie rien. Voilà. Donc, c'est vers ça, je pense, qu'on tend. C'est, et on le voit aussi sur le marché, parce que le recrutement est de plus en plus concurrentiel, il y a de plus en plus d'enseignes sur le marché de la franchise. C'est d'avoir des DIP qui éclairent en fait, et qui mettent plus de sens, qui sortent d'un cadre purement conformité juridique, mais qui prennent de la hauteur. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que c'est important aussi pour Cavavin, parce que c'est une enseigne notoire. C'est une belle marque, c'est une enseigne avec une très, très belle histoire. Mmh. Quand on connaît le marché de la franchise, on connaît aussi, on va dire, la marque de fabrique et la valeur de cette marque-là. Et donc, reposer de l'ADN et puis refaire du DIP plus un outil d'aide à la décision méthodologique, je pense que c'est vraiment intéressant. Sachant, n'oublions pas que les candidats à la franchise comparent. Et ils comparent ce qui est comparable, et notamment ce qui est comparable, c'est le DIP. Donc, c'est intéressant de voir aujourd'hui sur le marché que les DIP montent en gamme, prennent de plus en plus de hauteur et de sens, rappellent la méthodologie, etc., etc., et permettent au final à un candidat de comparer deux DIP, de se dire « là, c'est quand même beaucoup mieux structuré, et ça me donne envie de les rejoindre ».
Olivier ?
Ah ben je confirme, on a eu plusieurs candidats avec qui on a finalisé, qui ont comparé différentes DIP et qui le comparent sous l'angle légal, sous l'angle financier également. Sous l'angle financier, là, ils voient la force du réseau et puis ils voient que le réseau gagne bien sa vie. Et ça, c'est hyper important. Et on a de plus en plus des profils comme ça. Hein. Je ne vais pas citer d'exemple parce que sinon, c'est trop facile à trouver, mais des anciens DG dans d'autres activités qui sont allés sur le DIP, qui ont comparé. Il y a deux points pour moi. Il y a le DIP et puis il y a l'histoire de chaque enseigne et le côté humain des premiers contacts. Et en complément, Sylvain, de ce qu'on fait dans le DIP, nous, on fait de plus en plus des réunions en visio au préalable à la rencontre, où là, à chaque fois, on a 5 ou 6 prospects qui s'enrichissent mutuellement de leurs questions et on leur montre déjà nos outils. C'est-à-dire qu'on fait en général des visios qui durent entre 4 et 5 heures, 9 heures, 13 heures, parfois 14 heures le vendredi. C'est au moins une fois par mois et les gens sont attentifs à tout ça et se complètent les uns les autres par rapport à leur sensibilité d'origine. Mais moi, je prends bonne note du conseil de compléter tout ça dans le DIP également, évidemment.
Oui, c'est intéressant et ce que vous dites est très, très juste et assez, on va dire, avant-gardiste sur le marché, c'est-à-dire à un moment donné de vraiment placer au cœur du dispositif le temps de prise de décision, le temps d'engagement en connaissance de cause. C'est des points qui méritent d'être réancrés dans le DIP et de dire, voilà, dans la démarche de recrutement, dans la démarche de sélection, dans la démarche d'engagement en connaissance de cause, il y a ce document, mais il y a aussi ce dispositif. Et ça, c'est intéressant parce que ça accroît encore l'écart. Quand vous dites « ils lisent, ils comparent, ils viennent chez nous », en fait, on reprend encore un temps d'avance. Bon, on en a déjà un bon temps d'avance, je pense, mais on en reprend encore.
D'autant plus, Sylvain, lorsque vous dites, et vous me le dites régulièrement, lorsqu'on est face à une enseigne comme celle-ci, qui a une très belle histoire familiale, un actionnariat 100% familial, qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est ça ?
Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, sur le marché de la franchise, on voit aussi ces enseignes qui rentrent sur des tendances, sur des concepts à la mode, qui se développent vite et qui après sont revendus. Et on sait parfois que ces mécanismes-là peuvent être désastreux sur la relation humaine, sur la perte de sens vis-à-vis des franchisés. Et à côté de ça, on a des enseignes, on va dire, sérieuses, stables, historiques, avec des valeurs que viennent chercher les candidats à la franchise. Parce que quand vous êtes cadre dans une banque ou dans l'assurance ou dans un grand groupe, ce que vous venez chercher, c'est du sens, de la stabilité, de l'aventure humaine. Et donc ça, il faut le mettre en avant parce que c'est très démarquant par rapport à ces effets, on va dire, un peu étoiles filantes qui se développent sur le marché. Donc c'est important de l'affirmer et c'est souvent ce que viennent chercher aussi les candidats. Alors ils vont s'intéresser aux financiers, mais ils vont aussi prendre la décision sur ces aspects-là qui sont les aspects émotionnels. Finalement, où est-ce que je me sens bien ? Et c'est quand même, surtout dans des contextes un peu chahutés comme on les vit actuellement, c'est dans quel bateau je me sens en sécurité. Voilà. Et ça, c'est vraiment de plus en plus important et donc à mettre en avant et à valoriser, je pense. Ouais.
D'accord. Vous me confirmez ça, Olivier, cette importance de ce patrimoine familial ?
Ah ben nous, c'est aussi en partie comme ça qu'on fait évidemment la différence. On est indépendant, on est une entreprise familiale, on a fait notre congrès annuel au Puy du Fou il y a maintenant 2 semaines. On était 400 personnes. Il y avait 130 vignerons et plus de 200 franchisés, plus les équipes du staff ici. Tout le monde se connaît. Les franchisés se connaissent entre eux, sont très solidaires dès qu'ils ont des questions à se poser. On fait beaucoup de réunions régionales. Ils ont l'occasion de se rencontrer et ils connaissent les vignerons. Oui. Donc, on est… Non seulement c'est une histoire familiale entre mon beau-père, moi, et puis la façon d'amener cette pérennité à l'entreprise, mais c'est aussi le mode de fonctionnement et notre ADN. Et les gens, quand ils le découvrent, ils vont se renseigner en allant sur nos sites, en voyant dans les réunions d'information. Et ensuite, quand ils viennent en formation ou même quand ils vont au préalable en immersion et quand ils consultent les franchisés, ils le comprennent tout de suite. Et quand ils viennent chez nous, après, là, on a encore cette semaine des personnes en formation et… Je les vois toujours le lundi quand ils arrivent et je les revois en fin de semaine, je redéjeune avec eux et ils me confirment qu'ils sont pas étonnés de notre mode de fonctionnement. Ils sont convaincus quand ils repartent parce qu'ils sont agréablement surpris de tout ce qu'on met en place pour les accompagner au quotidien. Mais cette valeur, en tout cas humaine, celle-là, elle transpire chez nous, chez n'importe quel coéquipier qu'on a à leur disposition.
D'accord. Sylvain, sur la partie contrat, vous indiquez que l'enseigne a choisi donc 2 modes, la franchise et l'affiliation. Et là aussi, il semblerait que vous estimez que l'enseigne aurait intérêt à densifier ses différentes documentations.
Oui, alors, bon, on a une note qui est proche de 70%. Donc, encore une fois, il n'y a pas de gros sujet. Il y a un point important qui est intéressant et qui a attiré notre attention et qui nous paraît en décalage entre ce qui est écrit dans le contrat et puis la réalité et l'image en fait, que renvoie l'enseigne, c'est tout ce qui est lié à l'assistance. C'est vrai que les clauses liées à l'animation, à la formation continue notamment, sont des clauses qui sont très réduites en fait, dans le contrat, alors qu'on s'imagine, et je pense à juste titre, qu'au sein de l'enseigne, la manière de fonctionner, le mode opératoire est beaucoup plus conséquent. Voilà. Donc ce décalage-là pénalise un peu l'évaluation, notamment la formation continue. Il y a une clause de quelques lignes, 2-3 lignes, alors que je pense que ce n'est pas du tout le cas dans l'enseigne. Il y a une attention particulière portée à l'assistance et au devoir d'assistance que doit jouer le franchiseur. Donc ce petit décalage-là, en fait, pénalise l'évaluation. Qui au demeurant reste correct. Après, il y a quelques points qu'on relève dans tous les contrats actuellement, notamment liés au traitement des données personnelles et au RGPD, où il faut être un peu plus, on va dire, plus juridique dans le sens strict du terme pour se conformer en fait aux obligations légales. Mais ça, c'est des points de détail qu'on retrouve dans tout, dans toutes les évaluations contractuelles actuellement. Mais le vrai sujet, je pense, d'attention, c'est celui lié à l'assistance, à la formation continue et à l'animation. Voilà.
Olivier, est-ce que vous souhaitez réagir à cette analyse ?
Mais je confirme ce que dit Sylvain et je pense qu'on est un petit peu en décalage. Il faut vraiment qu'on rafraîchisse un peu nos DIP par rapport à tout ça parce qu'on fait de la formation continue, on est Calliope et on met tout en place pour bien former nos franchisés quand ils nous rejoignent. Et on a un niveau de formation qui est très professionnel par rapport à ce qui se pratique dans le métier. C'est-à-dire qu'en une semaine sur la partie formation sur le vin, la partie technique, c'est l'équivalent d'un W7-3 qui est une énorme référence sur le marché français et ce que les gens acquièrent avec déjà beaucoup de pratiques au préalable. On a un book de 200 pages hein, qui doivent d'abord bien potasser avant de commencer leur formation. On a de la formation continue ensuite avec des experts qui vont les former sur différentes typicités de vin, sur des champagnes, sur des spiritueux. On a des forums internes. On a un forum interne avec toute l'actualité au quotidien et la vie du réseau. Donc, dès qu'on ouvre une nouvelle cave, il y a une vidéo présentant le nouveau collègue qui vient d'ouvrir, peut-être à Oloron, par exemple. Donc, la vie, elle est aussi faite par des outils qui sont humains, avec beaucoup d'interactions. Et puis, le forum qu'on met à disposition de nos franchisés, chacun peut exprimer ce qu'il veut, il n'y a aucune censure. Donc, c'est vrai que ça, on ne le décrit pas dans le DIP. Et c'est vrai que c'est un avantage et que ça traduit encore plus ce mode de fonctionnement sans tabou, familial et en parfaite transparence. Et là, je rejoins Sylvain et je pense que c'est impératif de passer la fin d'année à mettre à jour notre DIP pour qu'il soit bien carré sur le début d'année. D'habitude, on le met à jour avec tout ce qui les petits détails ou voir la partie financière, mais là, il faut vraiment qu'on réexplique un peu plus tout ce qu'on pratique au quotidien. J'ai allé parfois un peu vite, peut-être, sur certains sujets, et le juridique n'a pas suivi.
Justement, Sylvain, quand on écoute ce que met en place l'enseigne, toutes ces, entre guillemets, ces réussites, on souhaiterait qu'elle mette en avant tout ça dans ces différents documents. C'est ce que vous me dites régulièrement sur des belles enseignes comme celle-ci, qui manquent un peu de densification sur ces parties qui font ces succès aussi.
On pourrait faire un peu de psychologie du franchiseur et se dire que parfois, on a des franchiseurs qui ont un vrai savoir-faire, mais qui sont un peu discrets. on pourrait se dire ça. Oui.
Quand on avance vite, c'est souvent le cas. Hein. C'est l'adéquation aussi entre la retranscription de tout ça par rapport aux sensibilités de chacun. Et c'est vrai qu'on le vit au quotidien, mais on oublie suffisamment l'expliquer. Oui.
C'est ça, et en fait, c'est un sujet plutôt d'affirmation parfois. On est plus en inconfort quand on se retrouve sur des diagnostics à faire où on sait qu'il n'y a pas un savoir-faire conséquent, on va dire, du franchiseur. Là, on est dans le cas inverse. On sait qu'il y a un savoir-faire, mais on peut parfois oublier de le faire savoir complètement. Voilà. Et c'est là où, en alignant, en fait, on reprend un avantage. Je pense sur le marché et puis on reprend conscience des arguments qu'on a à faire valoir vis-à-vis de nos candidats et puis de notre force de franchiseur vis-à-vis de notre réseau. Donc c'est intéressant souvent de se dire que les outils juridiques restent un élément visible de l'iceberg, mais que parfois c'est un bon reflet aussi de comment on doit se réaligner sur le plan du développement, de l'animation, du management et des arguments commerciaux à faire valoir.
D'autant plus quand une enseigne comme celle-ci monte régulièrement en puissance, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Après, je pense que Olivier aura plus matière à répondre sur ce sujet-là. Mais en tout cas, vu de l'extérieur, c'est sûr qu'il y a une belle image. Et que cette belle image, quand elle s'aligne avec les documents qu'on remet à nos candidats et qu'on signe avec nos franchisés, c'est là où c'est harmonieux, en fait. Ça devient harmonieux.
Olivier, vous allez avoir le mot de la fin.
En synthèse de ce qu'on vient de se dire, c'est vrai que moi, j'ai rejoint mon beau-père en 2016 pour pour lui succéder, on a eu une croissance de chiffre d'affaires de l'activité franchiseur de 50% en 5 ans sur un marché qui était pourtant pas porteur. Hein. Notre profession, elle est plutôt à plus 2 les années normales. Et tout ça, je pense que de l'intérieur, on le vit beaucoup et tous mes franchisés me le disent, on a beaucoup professionnalisé les choses. C'est-à-dire qu'on a beaucoup structuré, on est accompagné par des agences de communication, on fait beaucoup de choses, les équipes, je les ai consolidées, renforcées. Et on avance, mais on ne prend peut-être pas assez le temps de le dire parce qu'on ne prend pas le temps de se poser, parce qu'au quotidien, on gère une foultitude de choses qui nous font grandir. Et après, pour nous, c'est acquis, mais on oublie de dire de où on vient et où on va. Les gens de l'intérieur le savent, mais je conçois qu'on ne le dit peut-être pas suffisamment bien pour l'extérieur.
D'accord, ok. Eh bien, ça sera le mot de la fin de mon côté. Messieurs, je vous remercie.
Merci à vous.
Merci. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode dédié cette fois-ci à l'enseigne Baby Shoe Service. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt.
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.